Bonjour à toutes et à tous. Tant de louanges des fois qu'on aimerait qu'ils se poursuivent. Et on sait qu'un jour, ben, on va vivre ça puissance beaucoup. Ce matin, on va ouvrir notre dernière fenêtre sur la vie de Jacob. Mais j'aimerais vous poser des questions et... C'est intéressant de voir comment l'Esprit de Dieu conduit les choses ce matin, parce que dans les questions que je vais vous poser, ce sont des choses qui ont été évoquées ce matin. Et j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Est-ce que vous avez cette impression que la vie n'est pas facile? Peut-être que vous rencontrez un certain nombre de difficultés. Cela peut être dans votre travail, cela peut être dans une situation familiale qui est compliquée. Un trait de caractère que vous avez, qui vous énerve et que vous aimeriez tellement vous débarrasser. Une maladie peut-être, une tentation dans votre vie qui est récurrente. Comment est-ce que vous faites face à tout cela ? Comment est-ce que vous le gérez? Et j'imagine que pour plusieurs d'entre nous, parfois dans ces circonstances, eh bien, on fait appel à Dieu. On fait appel à Dieu pour qu'il intervienne et qu'il vienne régler ces situations. Et ce matin, l'idée que j'aimerais qu'on retienne, s'il y avait une chose à retenir de ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est cette pensée. Dieu utilise les situations difficiles de nos vies pour nous amener à comprendre, pour nous amener à réaliser qu'on a besoin de lui. On arrive à un épisode qui n'est pas le dernier épisode de la vie de Jacob. Vous pourrez lire la suite chez vous dans la fin du livre de la Genèse. Mais cette quatrième fenêtre, ce volet qu'on ouvre ensemble, nous amène dans un sommet de la vie de Jacob, un véritable tournant. Et il y a un mot-clé qui revient dans ce chapitre 32 de la Genèse, dans ces récits qui nous sont racontés, c'est le terme « face ». Et c'est vrai que dans ce chapitre, eh bien, il va y avoir deux face-à-face pour Jacob. Et ça va être les deux points de mon plan ce matin. Premier point, on va voir que le face-à-face de Jacob avec son frère Ésaü va révéler le fonctionnement de Jacob dans les versets 1 à 22. Alors on ne va pas tout lire, on ne lira que quelques passages. Mais Dieu, alors on a quitté Jacob quand il était chez Laban, vous savez, il a travaillé 14 ans pour avoir Rachel et il s'est retrouvé avec deux femmes, deux épouses, Léa et Rachel. Et puis, il a eu des enfants. Et voilà, le temps est venu pour lui de rentrer dans son pays, là où il y a sa famille. Mais cela représente un gros problème pour Jacob. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui se passe dans son pays? Dans quelles circonstances est-ce qu'il a quitté son pays? Il s'est enfui, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Son frère avait décrété qu'il allait le tuer pour ce qu'il avait fait. Alors, regardons. Donc Dieu demande à Jacob de rentrer chez lui. Mais Jacob, c'est sûrement ce qui l'attend. Alors regardez ce que va faire Jacob. Puis il envoya devant lui des messagers vers son frère Ésaü au pays de Séir, dans la steppe d'Édom. Il leur donna les instructions suivantes. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai acquis des bœufs, des ânes, des moutons,
des chèvres, des serviteurs et des servantes. Et j'en fais informer mon Seigneur pour recevoir bon accueil auprès de lui. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, et le voilà qui vient à ta rencontre avec 400 hommes. » On a ici la préoccupation principale de Jacob. Qu'est-ce qu'il veut à tout prix recevoir bon accueil de la part de son frère? Et c'est intéressant de voir comment, et on ferait certainement pareil dans de telles circonstances, Jacob se fait tout petit. Il met les formes à ses discours, il appelle son frère son seigneur, et il se place comme son serviteur. Il met en avant toutes les richesses qu'il a eues au cours de ses 20 années chez Laban. Jacob à la trouille. Quelle est la réponse que les serviteurs lui font? Jacob est en route avec 400 hommes. Autrement dit, Jacob n'est pas en train de venir pour faire une partie de belote. Il n'est pas en train de venir pour faire un match de foot avec son frère. Peut-être un match, oui, mais pas de foot. Et quelle est la réaction de Jacob face à cette situation? Un peu plus loin, juste après, il est dit « Jacob eut très peur. L'angoisse le saisit. » Au verset 12, il dira « À Dieu, j'ai peur qu'il vienne me tuer, sans épargner ni mère, ni enfant. » Voilà où est Jacob dans cette situation. Jacob craint profondément. Il est pris d'angoisse pour sa vie et pour celle de sa famille. Autrement dit, Jacob sait très bien qu'il est face à une impasse. Et c'est par peut-être les situations dans lesquelles on est dans notre vie. Alors on se retrouve peut-être pas du jour au lendemain face à un mur qui s'appelle la mort, en tout cas pas pour tout de suite, mais on peut faire face dans nos vies à de sacrées impasses. Et souvent, dans ces situations, on passe en mode survie. Pour Jacob, il va enclencher le plan 3P. Tout d'abord, il n'est pas fou, il va séparer son camp en deux et il se dit, voilà, au moins, si mon frère tombe sur l'un de nous, il y a peut-être la chance que l'autre moitié de mon camp, de mes biens, soit épargnée. Et puis, il va prier. Et on va lire cette prière. Puis Jacob pria, Dieu de mon père, Abraham et Dieu de mon père, Isaac. Je trouve intéressant de voir qu'à ce moment-là, Jacob parle de Dieu comme le Dieu de son père, de ses ancêtres. Mais Dieu n'est pas encore son Dieu. Ô Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta famille, et je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur. Car lorsque j'ai passé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton. Et maintenant, je me trouve à la tête de deux camps. Donc Jacob reconnaît que tout ce qu'il a eu, tout ce que Dieu lui a permis d'obtenir, la manière dont il a acquis toutes ses richesses, il reconnaît que ce n'est que le fait de Dieu lui-même. Délivre-moi, je te prie, de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne me tuer, sans épargner ni mère ni enfant. Pourtant, toi, tu m'as dit, je te ferai du bien, et je rendrai tes descendants aussi nombreux que le sable de la mer, que nul ne peut compter. Jacob a peur. Jacob fait appel à Dieu. Et on voit ici combien face à cette impasse, Jacob commence petit à petit à s'accrocher à Dieu. Il fait appel à lui, il lui dit « Seigneur, tu te rappelles à ce qui s'est passé dans cette vision de l'échelle qu'on a vu ensemble il y a deux rencontres, où tu m'avais fait cette promesse que tu serais avec moi, que tu prendrais soin de moi. Eh bien Seigneur, c'est le moment que tu mettes en œuvre ce plan, que tu tiennes ta promesse. Et puis, il va mettre au point un autre plan, le troisième P. Il va séparer le groupe qui reste en plein de petits groupes et il va envoyer des flots de cadeaux à son frère. Il va le gâter, mais vraiment. Parce qu'il pense, au fond de lui, il se dit, ben voilà, plutôt qu'un gros cadeau qui va arriver d'un coup, eh ben, je vais essayer de l'apaiser, de l'amadouer par plein de flots de petits cadeaux. Et il nous le redit à la fin, au verset 21 de ce chapitre, « Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui me précède. Ensuite, je paraîtrai moi-même devant lui et peut-être me permettra-t-il de le regarder en face. » Je ne sais pas qu'est-ce qui vous frappe dans ce que dit Jacob ici, mais après tout ce que Jacob met en œuvre, après tous ses plans, tous ses projets, tout ce qui demeure dans ce qu'il dit, c'est le peut-être. Peut-être que cela va changer quelque chose. On sent Jacob qui n'est pas serein. Et c'est le fonctionnement de Jacob. Jacob, devant sa vie qui est menacée, compte encore et encore sur ses ressources. Il compte sur ses biens. Il compte sur ses forces. Il met en place des stratégies, tout plein de combines pour arriver à ses fins, pour essayer d'obtenir ce qu'il souhaite. Et devant cette impasse, il fait aussi appel à Dieu. Cette prière est motivée, clairement motivée par la peur, et on peut le comprendre. Et en tout cas, on a l'impression qu'au fond du cœur de Jacob, il a cette impression que si il peut se passer quelque chose de bien à l'issue de cette rencontre, eh bien, ce sera très certainement parce que Dieu sera intervenu. Nous sommes un petit peu comme Jacob, n'est-ce pas ? Face à l'épreuve, face au mur, peut-être aux situations que j'ai mentionnées tout à l'heure, nous avançons en priorité, des fois spontanément, en comptant sur nos forces. On réfléchit à quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en œuvre, quelles sont les ressources que l'on a et sur lesquelles on peut compter, quel plan est-ce qu'on peut imaginer. Et c'est normal parce que quand on est des fois dans l'impasse, on rentre comme Jacob dans ce mode survie. Et puis, on en appelle aussi à Dieu. Mais souvent, cet appel à Dieu est parfois un appel à Dieu comme un Dieu qui est pompier. Viens, Jacob a dit, viens me secourir de mon frère. Et on peut lui dire, mais viens me sortir, Seigneur, de cette situation dans laquelle je trouve. Et quand on est acculé, quand on est arrivé parfois au bout de nos ressources et de nos propres solutions, on se rend compte que Dieu répond. Mais Dieu ne répond pas toujours comme on l'imagine. On est parfois tellement concentré sur la difficulté, et pour nous ça représente un petit peu comme le sommet de l'iceberg, qu'on ne voit pas le problème plus grand qu'il y a derrière et qui est la partie immergée de l'iceberg. Jacob fait appel à Dieu pour qu'il vienne apaiser son frère, pour que Jacob puisse le regarder en face, pour qu'il puisse être bien accueilli par son frère. Mais Dieu va montrer à Jacob que si son rapport à son frère est un problème pour lui, en fait, Jacob a un plus grand problème. Et ce problème concerne le rapport que Jacob a avec Dieu. Jacob est seul. Et alors qu'il est seul, comme bien souvent, vous savez, quand on est dans ces situations où c'est difficile, où parfois on souffre dans nos vies, on peut ressentir cette solution. Et on aimerait que Dieu vienne et nous réconforte. Et là, de manière surprenante, ce n'est pas exactement ce qui va se passer dans un premier temps. Un homme va venir lutter en pleine nuit avec Jacob. Je vous propose de lire le récit de cette rencontre. Dans la nuit, il se leva, emmena ses deux femmes, leur servante et ses 11 fils, et passa le gué du Yabok. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche, qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. »« Quel est ton nom ?» demanda l'homme. « Jacob, » répondit-il. « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire il lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea, « S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Il lui répondit. Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, c'est-à-dire la face de Dieu, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. » Quand il eut passé le gué de Péniel, le soleil se leva. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse fixé à l'articulation de la hanche, car c'est là que Dieu avait frappé Jacob. Un homme vient pour lutter avec Jacob jusqu'à l'aube. C'est la nuit, c'est l'obscurité. Et cette indication de l'aube nous donne deux informations. Tout d'abord, nous indiquer que cette lutte a duré longtemps, très certainement quasiment toute la nuit. Et cela est aussi là pour nous indiquer que dans cette obscurité, Jacob ne sait pas encore qui est cet homme qui vient lutter avec lui. Jacob ne reconnaît pas qui est cet homme. Cet homme sera clairement identifié à Dieu par Jacob. J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Il sera aussi identifié par le prophète Osée au travers d'un ange, autrement dit très certainement un ange de l'Éternel. Et c'est ce qu'on appelle dans la Bible, ces apparitions de cet ange de l'Éternel, théophanie, Dieu qui se montre en partie, mais de manière plus précise, une christophanie. Puisque, nous dit la parole de Dieu, on ne peut pas voir Dieu dans tout ce qu'il est, dans tout son être et vivre, et Jacob le savait, mais Dieu se laisse voir sous certains aspects, et il est dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Donc très certainement que ici, Jésus était en train de lutter avec Jacob. Alors cette question se pose. Dieu ne peut pas battre un homme. Et là encore, je pense que c'était dans le but de cacher dans un premier temps son identité à Jacob. Mais Dieu va se révéler, et en tout cas au travers de deux choses qui se passent par la suite, Jacob va saisir qu'il n'a pas affaire à n'importe qui. Il y a d'abord ce coup qui lui est porté à la hanche. En fait, il est question d'un coup ici, mais dans le terme original, il est mentionné que Dieu toucha la hanche de Jacob. Dieu a touché la hanche. Il a posé son doigt sur la hanche, sur la main, et sa hanche a été démise. Le deuxième indice qui doit interpeller Jacob, c'est ce « laisse-moi partir, car le jour se lève bientôt. » Et Jacob a dû faire le rapprochement en sachant qu'on ne peut voir Dieu et mourir et vivre. Mais quand Jacob va réaliser qu'il est en train de lutter avec très certainement Dieu, Jacob saisit, Jacob comprend que Dieu a ce que lui, il cherche depuis tout le temps, depuis si longtemps. Cette bénédiction pour laquelle il avait lutté avec son frère Ésaü, qu'il avait le droit d'aînesse, il avait troqué contre un plat de lentilles. Il avait fait preuve de ruse pour tromper son père, pour être béni à sa place. Cela lui avait coûté le fait de devoir quitter sa famille, de mettre son frère en rogne, qui court après lui, qui en veut à sa vie. Cette bénédiction qu'il n'a pas trouvée dans sa relation avec Rachel, ni Léa, cette bénédiction, Jacob sait qu'elle est à portée de main, que celui avec qui il est en train de lutter est celui et le seul qui puisse la lui donner. Ce n'est pas quelque chose que Jacob peut voler, ce n'est pas quelque chose que Jacob peut se saisir de ses propres forces. Non, ce n'est que quelque chose que Dieu peut donner, c'est que quelque chose que Dieu peut lui offrir. Alors il va lutter. Et le prophète Osée nous dit, Jacob a pleuré et il a supplié Dieu de lui donner cette bénédiction. Dieu est venu pour lutter avec Jacob. Dieu avait le désir de transformer la vie de Jacob. Mais cette bénédiction que Dieu veut nous offrir est conditionnée à une chose, et Dieu va lui poser, cet homme va lui poser cette question: quel est ton nom? Le nom à cette époque reflétait tout ce qu'on était. C'est pas ce qu'on faisait, mais c'était qui on était. Et pour Jacob, cette question est terrible, parce que quand il va répondre à Dieu et qu'il va dire « je m'appelle Jacob », derrière, il est en train de parler de qui il est au plus profond de son cœur. Ce nom qui voulait dire celui qui trompe, celui qui supplante. Je suis Jacob, le magouilleur. Et cela résonne comme une confession de la part de Jacob. Jacob reconnaît qui il est devant Dieu. Et devant cette confession, Dieu va transformer et accorder cette bénédiction à Jacob. Et il va changer son nom qui signifie désormais Israël, c'est-à-dire celui qui a lutté avec Dieu. Ce nouveau nom correspond au caractère, au nouveau caractère de Jacob, à une nouvelle destinée. Et il va recevoir donc cette bénédiction et Jacob va dire « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve ». Jacob reconnaît que devant Dieu, il aurait dû mourir. Mais Dieu lui a fait grâce. On peut se poser cette question. Pourquoi est-ce que Dieu a fait grâce? Pourquoi cette grâce de Dieu dans la vie de Jacob? Ce Jacob qui a tellement fait par lui-même, qui a passé par mille coups, par mille plans. Pourquoi est-ce que Dieu s'est retenu dans cette lutte avec Jacob? Pourquoi est-ce qu'il s'est contrôlé? Parce que cela nous parle du cœur de Dieu. Cela nous parle de qui est Dieu. On voit un Dieu qui a pris l'initiative de venir lutter contre Jacob. Mais Dieu, cet homme, n'est pas venu pour détruire Jacob. Il est venu pour le bénir. Et il y a, pour nous qui vivons après la croix, après ce qui s'est passé à Golgotha, un parallèle qui peut être fait et ce n'est pas de moi. Mais on trouve un autre moment de l'histoire de l'humanité où Dieu est devenu faible, où Dieu a contenu sa force. Dans l'obscurité, dans la nuit du calvaire à Golgotha, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ et s'est fait faible pour nous sauver. Jacob a risqué sa vie pour obtenir une bénédiction pour lui. Jésus est celui qui a perdu sa vie pour obtenir une bénédiction non pas pour lui, mais pour chacun de nous. Christ est venu pour nous offrir une nouvelle vie, une nouvelle identité, et nous offrir cette espérance qu'un jour on verra Dieu face à face et qu'on vivra. Alors Jacob est devenu Israël, et c'est lui qui sera l'ancêtre du peuple de Dieu. Ce peuple, vous savez, tout au long des récits de l'Ancien Testament et dans le Nouveau, on voit Dieu qui lutte avec ce peuple. Dieu qui lutte avec un désir profond, celui d'apprendre à ce peuple à lui faire confiance, celui d'apprendre à ce peuple à dépendre de lui. Israël, le peuple d'Israël, c'est aussi l'image de l'Église dans la parole de Dieu. Nous sommes ce peuple qui nous comportons souvent comme Jacob, mais qui sommes bénis et sauvés par grâce, grâce à l'œuvre de Christ, le véritable Israël, celui qui a parfaitement obéi, qui a réussi là où nous échouons tant de fois, pour nous offrir ce que nous ne pouvons pas obtenir par nos forces, par nos plans, par nos mérites, son salut. Un Dieu qui, dans sa grâce, se sert des épreuves de nos vies pour lutter avec nous, parce que Dieu a un désir pour chacun de nous qui le connaissant et à qui nous appartenons. Dieu veut transformer nos vies pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Dieu désire que dans nos vies, nous cessions de compter sur nos propres forces et que nous nous attendions à Dieu. Cela ne signifie pas de ne pas faire de projets. Cela ne signifie pas de ne pas faire aussi notre part, parce que nous sommes aussi encouragés cela, mais de placer en premier, que notre réflexe premier soit celui de compter sur Dieu et sur Dieu avant toute chose. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que au cœur des épreuves de nos vies, au cœur des situations qui sont parfois tendues, des situations qui ressemblent à cette impasse où parfois on ne sait plus du tout comment faire, comment va se passer la prochaine journée, comment, à quoi est-ce que tout ce que l'on vit, Seigneur, va aboutir. Eh bien, Seigneur, tu es celui qui vient et qui te sert de ces épreuves, de ces choses dans nos vies pour lutter avec nous, pour lutter contre notre cœur qui naturellement tend, comme celui de Jacob, à compter sur ses propres forces, à compter sur ses propres ressources. Et tu veux nous lutter avec nous pour nous amener à dépendre de toi, à compter sur toi avant toute chose. Alors merci pour ta grâce, merci pour ce qu'un jour tu t'es fait faible en Jésus-Christ et que tu t'es laissé clouer sur cette croix et que tu as reçu sur toi cette colère que nous méritions et que tu ne méritais pas pour nous offrir cette bénédiction que nous ne méritions pas, mais que tu voulais nous offrir, Seigneur. Alors merci pour ta grâce. Amen.